Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, le 17 juin 1998 à Saint-Jean-d'Arc.
On entre dans la période des examens, ça prouve que c'est la fin. Faites avec intelligence cette période qui peut être très bonne au point de vue intellectuel. Il ne faut surtout pas de bajotage, parce que là on perd du temps. Et qu'on essaie de comprendre tout ce qu'on a pu voir pendant l'année et faire ressortir les questions capitales. Et les difficultés qu'on peut avoir. L'expérience la plus fondamentale de l'unité que j'ai, l'expérience de mon corps, l'un dans l'unité du corps, n'est pas la négation du multiple, mais ça a un caractère positif, c'est un fondement réel. On a plus l'expérience du corps de l'unité organique et vitale. C'est-à-dire, on a plus l'expérience d'un vivant que du corps. Tu vois, je crois. On a l'expérience de cette unité de continuité. Et la diversité qu'apporte le corps. Le corps apporte l'expérience de la quantité. C'est la plus vieille expérience, hein. La première chute que vous avez faite quand vous avez appris à marcher, hein, vous vous rappelez? L'univers a tremblé. De l'unité. Très curieux, c'est plutôt l'expérience d'une brisure. Une brisure, une bonne brisure, parce que ça rebondit. Vous voyez, je ne crois pas que l'expérience du corps, de l'organisation du corps, de l'organisme du corps, soit l'expérience première. Je crois pas. Mais c'est possible. Vous savez, ça, là, dans ce domaine-là, c'est difficile de savoir ce qui est premier. C'est sûrement pas la plus nette. C'est au contraire l'expérience d'une victoire de l'unité sur la diversité. Ça, je crois qu'on pourrait dire que le corps nous donne d'une façon immédiate, immanente, cette expérience de la diversité, de la complexité de l'organisme. Et de son unité. Et mais voyez, l'expérience de l'unité se fait surtout quand on commence avoir mal la diversité des organes se détecte à propos du mal. J'ai mal au foie. Avant, j'y avais pas pensé. mal à la tête. J'ai mal aux yeux. Et tout de suite, vous précisez les parties. Et l'expérience de l'unité est complexe. L'expérience du corps. Pensant ça que je ne crois pas que c'est l'expérience fondamentale. C'est l'expérience du vivant dans sa complexité. C'est plus ça. Mais une complexité organique et unité qu'on doit maintenir. Oui, la gymnastique. Aide à comprendre. passionnelle, l'âme unie au corps, et de l'âme émane le corps, et le corps tout le monde physique. Et c'est une succession d'émanations. À ce point de vue-là, c'est, vous voyez, comme une sorte de théologie de la Trinité. Ce sont les processions du Père à l'égard du Fils, du Père et du Fils à l'égard de l'Esprit Saint. Mais c'est très différent, c'est tout autre, parce que c'est au niveau d'une émanation nécessaire. Yeah. une espèce d'unité, de continuité et de brisure pour les individus. On est une partie du tout. Et le tout, c'est l'univers corporel, divers physique. Et on fait partie de ce tout. On est dans ce tout. C'est une sorte de panthéisme aussi, on pourrait dire, dans Platon. Il y a à la fois un panthéisme physique, et puis alors, je reprends, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que, à la différence de Platon, c'est que l'expérience externe, l'expérience des sens, a un rôle important chez Platon. Et il prend toujours les deux expériences, l'expérience interne, l'expérience externe. Mais l'expérience interne est ordonnée. L'expérience externe est ordonnée à l'expérience interne. Tandis que pour Aristote, c'est l'inverse. Là, il y a des quantités de points communs. Et c'est sûr que, d'une certaine manière, vous voyez, on dirait que Hegel, c'est le Plotin de notre monde, de notre philosophie contemporaine et moderne. Il y a une philosophie de l'immanence chez Plotin qui est très extraordinaire, qu'on retrouve chez Hegel. Première expérience de l'unité, je crois que c'est l'expérience de l'œuvre d'art, en voyant dans chaque art l'exigence de l'unité. Et c'est par là qu'on a l'expérience du rythme, de l'harmonie, qui sont des expériences de l'unité. Des différentes en musique, en architecture. Comment dans une œuvre d'architecte, on respecte la diversité et on cherche la victoire de cette diversité dans une unité qui ne sera pas une unité artificielle. L'unité artificielle, c'est une unité logique et pas vitale. L'unité vitale, elle sort du vivant. L'unité artificielle, c'est la mesure. En mesurant, vous pouvez unifier. Mais la mesure est quelque chose d'extérieur. Chercher à connaître la quantité et vous la mesurer. Et vous la mesurer de l'extérieur. Alors c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que, de fait, cette connaissance par la mesure est toujours une connaissance extrinsèque. Soi-disant d'une objectivité parfaite. Mais l'objectivité est artificielle, donc elle n'est pas parfaite. Et pour le vivant, sa mesure est quelque chose d'extérieur. Extrinsèque. La grandeur, le poids. Vous mesurez tant, vous avez tel poids, et vous mesurez tel. C'est purement extérieur. C'est bon pour la carte de visite. Mais ça ne dit rien du tout de ce que vous êtes. On peut mettre l'infinité dans le temps, c'est déjà quelque chose de plus. Parce qu'on n'a pas fait une grande promenade, une grande rencontre pour tous ceux qui pèsent 110 kilos. Si vous voulez être original, faites ça. Les 110 kilos pour circuler dans la ville. Je vous aurai un succès monstre. Ou les 150 000 à moins. Les 110, on arriverait quand même à avoir un nombre important et des camions suffisamment forts pour les porter. Oui, et là, c'est une idée purement artificielle, conventionnelle. Là, le conventionnel existe. Et c'est intéressant qu'il existe parce que la mesure est extérieure. Et c'est ce que vous appelez, quand vous dites à quelqu'un qu'il est trop formel, il est trop conventionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a une mesure extrinsèque. C'est purement conventionnel de mesurer tous ceux qui pèsent 110 kilos. Déjà, ceux qui sont même nés la même année, les contemporains. Comme on dit en Suisse, la réunion des contemporains. Alors évidemment, plus on avance, moins il y en a. Les contemporains diminuent en fonction, pas du poids, mais de la longévité. Des mesures extrinsèques. Là, c'est une conception de l'un très artificielle, mais très pratique. C'est comme ça qu'on fait des conserves. Dans les magasins, pour les pieds, pour les bottines, quel pied avez-vous? Longueur du pied. Alors, on fait des choses semblables pour l'intelligence. Des tests. C'est la longueur des pieds de l'intelligence. La rapidité du jugement. L'unité de l'œuvre artistique n'est pas extrinsèque. Elle est une unité d'expérience.
La finalité, vous reprenez toujours ça. C'est
respecte une diversité de taille, une diversité de poids, mais il faut avoir l'unité dans la finalité, la recherche de la vérité. La recherche de la vérité unifie toutes nos recherches. Quand il n'y a plus de recherche de vérité, vous êtes dans la diaspora. Ça s'ajoute. C'est le tas de pierres. Vous ajoutez les références, les quantités de références. Ils disent tous cette même affirmation, mais ils la disent diversement. Tandis que lorsqu'il y a la même recherche intérieure, on touche la même finalité, le même intime de leur cœur. Mais il y a quelque chose qui dépasse la diversité existentielle. Et c'est pour cela que Plotin considère que l'unité va plus loin que l'être. Puisque l'être maintient la diversité et l'amour fait l'unité et la vie fait l'unité, la recherche de la vérité, la vie intellectuelle. Et ça, c'est très important de voir que cette expérience de l'amour d'amitié, au fond, exalte l'unité. Au-delà de la diversité. Et toutes les brisures d'amitié dans notre monde d'aujourd'hui, c'est extrêmement significatif. C'est qu'il n'y a plus la même finalité. Elle est comme brisée. Et c'est terrible de voir ça, du reste. Toutes les crises à l'égard de l'amour d'amitié dans le mariage, dans la vie religieuse. On était entré avec un grand idéal et l'unité se faisait dans cet idéal. Mais c'était un idéal, c'était pas une finalité. Et tout d'un coup, ça s'est brisé. Alors là, on touche avec quelque chose de très important. Parce qu'on voit combien l'unité est nécessaire pour que l'amitié puisse continuer. Et l'amitié étant la fin propre et première de l'homme, on voit que l'unité devient une condition vitale, extrêmement importante. Il y a l'unité dans la continuité, dans le continu, l'unité dans la grandeur, l'unité intérieure dans la recherche de la vérité, l'unité intérieure dans le même vouloir. l'expérience de la brisure. Puis alors, si on est chrétien, on parlera de l'unité de l'Église. Si on est chrétien, on regardera l'évangile de Jean, qui se termine par une prière en vue de l'unité. C'est quand même très curieux que dans l'évangile de Jean, les désirs du Christ, c'est l'unité. Est-ce que dans la petite Thérèse de l'enfant Jésus, l'unité se manifeste de la même façon comme ce qui est le plus profond dans le désir du cœur de Thérèse. Elle parle de l'amour avec beaucoup de force. Dans l'Église, je veux être l'amour. Elle ne dit pas dans l'Église, je veux être l'unité. Pour le dire. Non, à l'amour. Il faudra donc réfléchir sur pourquoi quelqu'un d'aussi intime, d'aussi profond, d'aussi saint que la petite Thérèse n'imite pas Jésus jusque-là. Parce que c'est les derniers désirs du Christ, Père, qu'il soit un comme nous. C'est quand même très étonnant. Il semblerait qu'il y a comme le désir le plus profond du Christ, qui est de maintenir l'unité. Marthe, disant, l'unité est ce qu'on doit maintenir de la manière la plus profonde dans une communauté religieuse. Pourquoi l'unité? Dans une recherche de vérité, mais c'est l'unité. Il y a quelque chose d'assez étonnant, mais de retrouver le terme de la philosophie grecque, Plotin, l'unité, le terme de la prière de Jésus, 2 siècles avant, c'est l'unité. Quelqu'un comme disciple du Christ parle de l'unité comme la chose principale pour le développement de la charité fraternelle. Mais c'est à partir de là que nous devons réfléchir. Qu'est-ce que c'est que l'unité? Le tiesti de l'unité. Bon, je vois d'une part, et je dois tout de suite le souligner, que je vois que l'unité regarde l'œuvre d'art, l'unité regarde la vie, l'unité regarde l'intelligence, l'unité regarde la volonté et l'amour, l'unité regarde le corps dans sa vie, l'unité est présent dans tout élément de vie profonde. On retrouve tout le temps l'unité. Je vois tout de suite, facile à voir, que l'unité a des sens différents. Quand je prends l'unité de la mesure, l'unité conventionnelle, le litre, c'est une unité conventionnelle. ça, parce que pour les calculs, ça va mieux que si chaque pays avait sa convention. Pour le commerce, ça va beaucoup mieux. Pour le passage avec l'argent, ça va beaucoup plus vite. Ça simplifie, comme on dit. Et la simplicité implique l'unité. Il y a des modalités différentes. Quelle différence y a-t-il entre la simplicité et l'unité? Si je recherche à savoir qu'est-ce que c'est que l'unité, je dois comprendre la différence. C'est-à-dire, comme il est simple celui-là, et là quand vous dites de quelqu'un qu'il est trop simple, simpliste, il simplifie les problèmes. Et vous prenez le mot simple, pas le mot un. Vous dites jamais qu'il cherche trop l'unité. Oui, vous pourrez le dire d'une certaine manière, faire une critique à l'égard de réalités qui ne peuvent être parfaites que dans la diversité. Dès que vous êtes dans le monde matériel, ne peut être parfait que dans la multiplicité. C'est un grand principe que saint Thomas emploie tout le temps. Et ça, c'est très vrai. Dans le monde matériel, s'il n'y a pas une certaine diversité, il ne peut pas y avoir une certaine perfection. Dans le monde spirituel, on ne peut être parfait que si on est un et simple. C'est très curieux. C'est là une diversité très nette et congénitale. Vous voyez que c'est intéressant de voir que l'unité s'applique à l'être, à la vie, à la matière. S'applique à la personne, à ses diverses activités. Il y a comme une diversité très grande, et c'est pour ça qu'on dira tout de suite que l'un a une signification analogique. Et vous trouvez en effet que l'un fait partie des transcendentaux. La ratio unius. La ratio unius, comme il y a la ratio boni, comme la ratio entis, ça fait partie des transcendentaux. Là. Ça se dit de diverses manières, mais c'est toujours là. Alors, quel est l'un le plus parfait? Quel est l'un le plus manifeste? L'un le plus manifeste pour moi, c'est l'un dans la quantité. L'un le plus parfait, c'est l'unité dans l'amour, ou dans la bonté, ou dans l'être. Mais qu'est-ce que c'est que l'un? Pourquoi ce lien si profond de l'intelligence et de l'un? Comment ça se fait, ça? Et d'une certaine manière, vous voyez, d'une certaine manière, l'un est l'âme de tout œcuménisme au plan religieux. Et l'un permet à une communauté d'exister. Le jour où la politique est tellement diverse et qu'il n'y a plus d'unité, un pays devient ingouvernable. France, il n'y a plus d'unité. C'est très curieux de voir qu'il y a des situations extrêmes où l'unité disparaissant, la politique disparaît. Il y a quelque chose d'important là à saisir. C'est que ça touche, vous voyez, des réalités très profondes, puisque c'est une condition sine qua non pour que l'existence de certaines choses puisse être. S'il n'y a pas d'unité, ça ne pourra pas exister, ça ne pourra pas durer. S'il n'y a pas d'unité, ça disparaîtra. Condition sine qua non pour la vie, pour l'existence. Si la diversité l'emporte. Et donc, on comprend que d'une certaine manière, toute dialectique, c'est l'équilibre entre l'un et le divers. Donc là encore, on voit combien l'unité et la diversité sont en connaturalité avec mon intelligence. On touche quelque chose qui est peut-être, je dis peut-être, pour qu'on le cherche, la caractéristique de l'intelligence humaine. Alors, est-ce que c'est la caractéristique de l'intelligence humaine ou est-ce que c'est la caractéristique de la sagesse, de l'intelligence divine? Et ça, vous ne sauriez pas répondre. Mais c'est vrai. Je vous vois dans une naturalité constante avec mon intelligence. Ça se retrouve partout. Ce problème de l'un et du multiple. Ça se retrouve partout. Est-ce que c'est de fait quelque chose qui caractérise mon intelligence humaine? Mon intelligence humaine ne peut vivre, progresser, que s'il y a une certaine unité. Vous voyez, quand vous êtes en train de faire une petite dissertation, voyez en premier lieu la diversité du sujet. Et il faut bien la voir. Et quand vous voyez très fort cette diversité, quelquefois vous la voyez avec une telle force que vous n'arrivez plus à unir. Vous dites, mais ce sont des sujets tout à fait différents. Et vous n'avancez plus quand il n'y a plus le fil conducteur. Le fil du tisserand, fil conducteur, il est rompu. On ne voit plus que la diversité, je ne peux plus travailler. Un sculpteur a très fort ce sens-là. Un architecte a très fort ce sens-là. Diversité ou une limite à la diversité qui semble empêcher l'unité. Et à ce moment-là, on est coincé et on dit chemin sans issue. Il est dans la diversité. Tous les chemins ont une issue. Il y en a qui sont sans issue. Vous expliquez pourquoi tous les chemins ont une issue, puisque en tant qu'il existe, il conduit à quelque chose. Et on met sans issue. C'est curieux. Il y a donc, vous voyez, une diversité telle qui empêche l'unité. Et dans l'ordre pratique. Alors, la question philosophique, c'est qu'est-ce que c'est que l'un? Qu'est-ce que c'est que l'un? Et la première chose que vous voyez, vous définissez l'un négation du divisible. L'un, c'est ce qui n'est pas divisé. Quand vous cassez une assiette en laissant tomber, vous ramassez tous les morceaux, vous les recollez, et vous retrouvez l'unité du tout. Et vous la représentez au propriétaire de l'assiette. Ça, voilà ton assiette. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Ce n'est plus mon assiette. C'est du sale travail. Le recollage. Ramasser tous les bouts. La diversité l'emporte sur l'unité. Et quelquefois, c'est tellement bien fait qu'on ne voit plus. Et pourquoi ce besoin de revenir à l'unité après avoir tout divisé pour l'unité, pour le tout? Le tout implique une certaine unité dans des pièces multiples et diverses. Alors, je crois que la première approche de l'unité, c'est de considérer qu'il n'y a pas de division. Il n'y a plus de division. Donc, c'est un aspect négatif.